Jean-Marie Gouriot,
c'est un petit peu triste là cette rencontre, parce que vous nous révélez que ce petit troquet des brèves de comptoir, c'est le dernier. Vous arrêtez ?
Déjà, je prends une bière avant.
Ah là, voilà, la bière qui arrive.
Déjà, c'est pas si mal.
Merci, voici monsieur.
Merci, monsieur.
Merci, ben oui, donc c'est une aventure exceptionnelle. Quoi. Ça avait commencé en 1985, à Rakiri et Charles Hebdo, autour de la table de rédaction. Il y avait tous les potes, il y avait toute la bande. Voilà. Et ça s'arrête maintenant, en 2015, où il y a un peu moins les potes, un peu moins la bande. Mais c'est les mêmes. C'était les mêmes qui étaient à la première brève et c'est les mêmes qui sont à la dernière. Et ça a commencé avec Choron, Cavana, GB, Volinsky, Cabu, Topor, tout le monde. Et maintenant, quand autour de la table de réaction de mon amour à moi, ma famille, il n'y a plus personne. Il ne reste que Willem. D'une certaine manière, ça s'est arrêté aux attentats. Je me suis rendu compte qu'en fait, les brèves faisaient partie de tout ce monde-là, quoi. Voilà. Donc elles s'arrêtent. Avec tout le monde. Et puis moi, je tiens, d'une certaine manière, c'est une minute de silence à rallonge.
C'est quoi ? C'est vraiment ce chagrin de voir tous ces amis disparus, ceux qui étaient les parrains, en quelque sorte, des brèves de comptoir. C'est pour ça que vous arrêtez ?
Mais d'une certaine manière, ça a perdu son sens. Et je me suis rendu compte, et c'est valable pour tous les livres, je pense, qu'on écrit les livres pour quelqu'un. Et ça, je ne savais pas, je ne m'en rendais pas compte. Et en fait, tous ces bouquins-là, toutes les brèves, c'était pour eux. Comme quelqu'un écrirait pour sa mère. Voilà. Et quand sa mère disparaît, il y a quelque chose qui disparaît qui fait que l'écriture disparaît avec. Et ben les brèves disparaissent avec toute cette famille-là, parce qu'en fait, je les faisais un peu pour eux. C'est-à-dire que pour « Regarde papa comme je saute bien du plongeoir ». Et voilà, et donc le papa, il n'est pas là, j'ai plus envie de sauter du plongeoir. C'était des gens extrêmement, incroyablement beaux, bons, intelligents, enfin des gens extrêmement brillants, des fous furieux, intelligents. Donc, c'est l'intelligence éruptive. Voilà, c'est ça qui m'épatait. Extrêmement intelligent, extrêmement bordélique en même temps. Alors ça, c'est pour moi, c'est la définition de l'anarchie magnifique. C'est un bordel noir qui crée une intelligence magnifique.
Et qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui ? Vous sentez orphelin ? Enfin, je ne sais pas quel est le mot qui convient le mieux pour qualifier cette absence.
Je ne dirais pas que je suis orphelin, je dirais que je suis paumé. Paumé, voilà, un peu. Le livre s'arrête le 7 janvier, c'est que les dernières brèves qui sont entendues, c'est le 7 janvier.
Vous l'avez appris d'ailleurs dans quelles circonstances ? Vous étiez justement dans un bar, dans un café, le 7 janvier ?
Non, j'étais chez moi. J'ai appris par la radio. Donc j'ai mis la télé, tout ça, bon, etc., comme tout le monde. Et après, j'attendais les noms, l'appel. Donc ça égrenait comme ça. Là, là, et après ils ont dit 10. Putain, j'ai dit, oh la vache. J'ai dit, alors, je suis devenu fou. J'ai déliré, j'ai bu comme un fou, ça a été extrêmement violent. Et après, je ne pouvais plus sortir. Je ne pouvais plus aller dans les bars, je ne pouvais plus rien faire. Et puis après, il a fallu se calmer, mais ça a été vachement long. J'ai vachement été aidé par beaucoup de monde. Ça partait vraiment en vrille. Après, j'ai vu toutes les saloperies qui me sont remontées depuis que j'étais petit, parce que j'ai eu une enfance de merde. Enfin, ça vraiment. Donc c'était très violent. Et alors, j'ai trouvé une solution pour me sortir de ma douleur. Qui était tout à fait. Parce qu'avec ma fiancée Blandine Genreau, qui était maquettiste, on s'est connus à Charlie Hebdo en 76. Donc être avec Volinsky, avec toute la bande, elle a tout fait. Voilà. Et tout d'un coup, dans cette douleur meurtrière et tout ça, il m'est apparu. On était ensemble depuis 37 ans, qu'on allait se marier. Et donc on s'est marié avec Blandine Genreau, qui est maintenant ma femme, qui était ma fiancée depuis 37 ans de Charlie, et je vois bien Volinsky qui se marre, Cabu qui dit se marie, putain, il est formidable. Et je n'ai pu en sortir que par, d'une certaine manière, l'amour, par l'arrêt des brèves pour montrer qu'un silence comme ça, une minute à rallonge de silence est bienvenue, et que doit sortir de ce merdier-là une fleur. Sans déconner, c'est une fleur qui pousse sur le sens que je suis en train de faire, sinon je... C'était le 28 février, quand ça a été vite, hein, les papiers et tout. 28 février, et donc j'avais invité tout le village, il n'y avait que le village. Je leur expliquais pourquoi je me mariais et tout ça, c'était d'une émotion. On a bu, mais c'était un mariage, une densité rigolote, sympa, un vrai mariage. On s'est tous mariés ensemble, là c'était... Volinsky s'est marié avec Blandine, Cabu s'est marié avec Blandine, tout le monde Charles s'est marié avec Blandine, tout le monde s'est marié avec elle.
Je suis cocu par.
Déjà, le jour du mariage, ils étaient tous avec elle. C'est bien leur genre, les salauds.
Et puis, alors, quel pied de nez aux assassins.
Ah oui. Parce qu'il n'y a pas de. C'est très difficile de sortir de ça, parce que je peux péter un plomb. Hein. Je peux aussi prendre une arme, faire ce que je veux, faire une bêtise.
Vous avez eu cette tentation à un moment donné ?
Il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de tentations de faire n'importe quoi, j'en sais rien, le truc a eu. Enfin, y a, la folie n'est pas loin. Ah oui, la tête, elle s'en va. La folie n'est pas loin. Ouais. À ce moment-là, comment sortir de la folie? Évidemment, ce n'est pas par l'excès, c'est par la douceur, vraiment. Par la douceur.
Alors, on va revenir sur les bons moments, donc la naissance de ces brèves. Vous vous souvenez, par exemple, alors donc à l'époque, elles étaient, avant de devenir des livres, elles étaient publiées dans Harakiri. Vous vous souvenez de la première? Enfin, racontez-nous comment toute cette folle aventure commence.
Oui, donc les locaux du journal, c'était rue des Trois Portes. Et on avait une grande salle de rédaction, toujours avec cette fameuse table de rédaction. Et on avait un bar. Et une fois que la couverture de Charlie Hebdo était trouvée, c'était table ouverte. Il y avait tous les potes qui venaient boire des coups, les journalistes, les comédiens, la boulangère, les flics du 5e qui rentraient. Et donc évidemment, à ce petit comptoir dans la salle de rédaction, ça parlait. Et donc j'ai entendu cette première phrase, cette première brève. Est-ce qu'une plante carnivore peut être végétarienne? Donc j'ai noté cette phrase, et donc c'était autour de la table de rédaction en 85.
Allez, donc c'était le comptoir en fait de Harakiri quoi, à l'époque.
Exactement, c'était le comptoir d'Harakiri, qui était aussi le comptoir de Charlie Hebdo, parce que c'était la même salle. Et j'ai noté, c'est amusant, et après le lendemain au Relais Lagrange, qui était le bistrot à côté, j'ai entendu une phrase marrante que j'ai notée. Et après c'était au Ronsard, qui est place Maubert, j'ai noté. Après c'était dans Telma, et après je me suis rendu compte que c'était amusant. Et j'en ai parlé avec GB, et on a fait une colonne dans Harakiri qui s'appelait Brève de Contin. Et après, on en a fait un petit livre, un supplément presse qui était distribué par les NPP dans les kiosques à journaux.
Vous vous alliez vous installer dans des bistrots, des cafés, comme celui où on est aujourd'hui, qui était en quelque sorte vos terrains de chasse. Enfin voilà, c'était une démarche volontaire d'y aller, non pas pour retrouver des amis ou boire un verre, mais pour être à l'affût comme ça des brèves de comptoir.
J'ai jamais été à l'affût des phrases. J'allais au bistrot pour aller au bistrot. Comme quelqu'un qui va se promener dans les bois pour aller se promener dans les bois. Et s'il trouve des champignons, il est très content. Il revient avec un kilo. Mais si vous allez tout le temps dans les bois pour trouver des champignons, vous n'allez rien trouver. Non, je vais au bistrot parce que j'aime aller au bistrot. Sauf que il y a une phrase amusante qui est dite. Je m'en souviens, je la note. Alors que d'habitude, ça tombe par terre. Personne ne s'en occupe, mais c'est tout. Donc je n'allais pas dans un bar pour dire je vais aller écouter les gens. Je vais aller dans un bar pour boire un coup, pour me promener, pour boire un café, tout ça. Mais par contre, c'est sûr que c'est solitaire. On ne peut pas y aller à deux, trois.
Oui, parce qu'il faut être quand même à l'affût, il faut être en éveil, essayer justement de choper comme ça ce qui se dit autour de vous.
Il faut aimer se promener tout seul, arpenteur. C'est-à-dire, moi j'aime bien aller dans les bistrots tout seul, je me mets au coin, voilà. Parce que si j'y vais avec des potes, je peux y aller. Mais se promener tout seul, le matin, voilà, dans Paris, là, quand le jour se lève justement, se faire 5-6 bistrots comme ça tout seul, partir de la gare, machin.
Et être plus spectateur que qu'acteur, justement, pour avoir une bonne moisson de brèves, non?
Il ne faut pas être acteur, il faut être...
Auditeur,
disparaîtreur. Il faut être flottant, il faut être rien, il faut être un peu rêveur. Tout d'un coup, être un peu dans un état très tranquille, boire un petit verre, un petit café. Et là, tout d'un coup, il y a des choses qui surgissent, même des gestes. Alors, il me fallait ma ration quotidienne de bistrot.
D'abord.
Ah oui, d'abord. Après, on verra les brèves. Les brèves, c'est pas important par rapport au bistrot. Okay,
okay. Mais alors, techniquement, Jean-Marie Gouriot, vous aviez un carnet, un crayon, et vous notiez systématiquement. C'était mémorisé, et puis c'est une fois rentré chez vous que vous les renotiez sur le papier. Comment? Parce que ça ne doit pas être évident. On doit se faire très vite repérer quand on est comme ça dans un comptoir et de voir un gars en train de griffonner et de se dire mais qu'est-ce qu'il fout celui-là ou...
Quand la phrase est vraiment extraordinaire, on s'en souvient. On se souvient de 2-3.
Il y a déjà un bon test, justement. Voilà, c'est celle qui reste. Ah, donc oui. On se dit, celle-là, elle est bonne.
Oui, il y en a qui restent. Voilà. Et puis après, il faut noter. Parce que même une heure après, c'est plus tout à fait la même phrase. Parce que des fois, il y a des phrases qui sont mal fichues et c'est ça qui les rend très très belles. Qui ont un petit défaut. Donc il faut les noter, celles-là.
Vous aviez quoi, un petit carnet
Donc moi j'ai toujours un carnet, mais même quand on note sur un carnet, c'est pas bien, il faut le... Voilà. Donc avant, il y avait des sous-bocs qui nous servaient dans les bars pour noter sur le sous-boc. Et donc on peut noter soit un sous-boc rapidement, sinon on cherche un appartement. Donc on peut avoir un journal ouvert de sans soi avec... Et oui, donc on peut griffonner tout, n'importe quoi. De temps en temps, on dit, oh putain, les salauds, le prix du mètre carré, et puis voilà, c'est reparti. Donc, là, ou alors, quand on boit de la bière, on va souvent aux toilettes, alors là, je descends et je note. Et oui. Et puis alors en disant, je dis putain, ça fait pisser. Donc je descends aux toilettes toutes les 10 minutes en disant, oh, il a une petite vessie, puis il se fout de ma gueule. Alors que je descends pour le noter. Donc voilà. Mais il ne faut jamais le noter devant les gens parce que tout d'un coup, ça crée. Déjà, il ne faut pas le noter devant les gens et puis il ne faut pas leur dire. J'avais marqué de leur dire qu'ils ont dit quelque chose de bien. Parce que là, tout d'un coup, la parole devient une monnaie. J'ai dit un truc qui a une valeur, mais je ne suis pas là pour ça, moi je suis là pour dire des trucs. Et là, tout d'un coup, ça monétise l'amitié. Et là, il y a un souci. Donc, il faut que, c'est ça qui se trouve. Enfin, ils disent des choses extraordinaires qu'ils jettent par terre. Enfin, oui, donc, cette gratuité, cette invention gratuite est vraiment un art de la rue. Hein.
Et alors, le carnet, vous en avez un, là, par exemple, aujourd'hui? On peut le voir, même si on est à la radio.
Ah, bah oui.
Allez, il est où? Dans la poche du pantalon.
Donc, la différence que j'ai arrêtée, c'est que je ne sais plus où il est.
Il n'y en a plus.
Si, je l'ai, mais je dois l'avoir quelque part. Si, je l'ai. Mais c'est ça qui est dingo. Il faut que je le... Ben, il est là.
Voilà, donc le tout petit carnet Rodia. Alors ça, c'est vraiment, ça doit être le plus petit format.
Il n'y a rien dessus. Il n'y a rien dessus.
Il est blanc. Vous savez que le blanc, autrefois, c'était la couleur du deuil.
Oui, c'est vrai. Ouais. Et la marine était en noir, on sait. Et donc, mon carnet est vide. Donc, je mets une heure à le trouver et il est blanc.
Oui, mais il est toujours là quand même. On se dit que peut-être un jour, l'envie peut revenir, non?
Parce que je vais noter des idées pour les romans. je trouve que le truc a été parfait. Ça a été incroyablement exceptionnel. 3 pièces de théâtre, un film, un nombre incroyable de bouquins, des tournées, des ceci. Ça a été vraiment exceptionnel.
Et vous n'aviez pas, j'imagine, au départ, conscience de faire de la littérature, parce que finalement, c'est devenu de la littérature, une espèce de forme littéraire. Au début, c'était simplement comme ça, pour rigoler, l'idée de noter quelques phrases qui avaient fait bien marrer une bande de copains autour d'un comptoir.
Oui, j'avais absolument pas idée de littérature, ni d'un regard social, ni d'une composition de quoi que ce soit, sauf que j'avais une seule idée. C'est qu'on ne dise pas de ces gens-là que c'est des gros cons de comptoir. Donc tout le temps on lisait, il y a un moment on parlait du café du commerce, c'est tous des imbéciles, tous des têtes de cons, du fond national. Eh bien, c'est ça qui m'ont... Alors là je disais non. Mais c'est tout, je n'allais pas plus loin. Et c'est d'année en année, en année en année, qu'en effet il est apparu un personnage singulier qui est le peuple des bars, et qui tout d'un coup, évidemment, c'est le peuple des bars qui a un poème, qui a une énergie incroyable, qui a un pouvoir de résistance à l'ennui, à la mort, aux soucis de la société, qui est dans un désarroi total et qui arrive quand même d'épaule à épaule à se réchauffer. Mais ça, il a fallu beaucoup d'années. En effet, j'aurais fait qu'un livre. Ben, c'est un livre marrant. Et après, ça y est, c'est parti. C'est une écoute de ce que les gens disent, pensent, ressentent, et voilà. Mais toujours sans y toucher, parce que à ce moment-là, je cherche à faire une construction, à faire un schéma de ce qui j'imagine être le peuple des bars, c'est fini, il se fait tout seul.
Quel est le chef-d'œuvre de ces 60 000 brèves?
Il y en a une, mais c'est toujours la même. Donc c'est pour un chêne centenaire, tu peux mettre tout l'engrais que tu veux, il faut 100 ans. Et c'est drôle parce que j'en ai trouvé une deuxième. On pousserait à la vitesse des arbres, on aurait moins peur de la mort. En quelques mots, on est dans un petit chef-d'œuvre, une goutte d'eau minuscule de philosophie de comptoir.
À la santé des brèves de comptoir, alors. Merci Jean-Marie Gouriot.
Merci beaucoup.